Bonsoir et bon début de semaine à tous. Au moins 86 civils ont été tués et plusieurs sont portés disparus lors des deux attaques menées par les EDF en deux jours dans le territoire de Lubero et Beni. La première attaque survenue le lundi soir en Toyo, territoire de Lubero, a fait un bilan macabre d'au moins 70 morts. La deuxième, le mardi à Fotoudou, près d'Oicha, Beni a coûté la vie à au moins 18 personnes. Si les forces conjointes FRDC et UPDF sont intervenues, limitant l'ampleur des dégâts selon des sources locales, la société civile, elle, déplore que les alertes plutôt concernant la présence des rebelles n'aient pas été prises en compte. Comment expliquer cette énième tuerie des civils par les EDF alors que des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises sont en cours dans cette région? Nous en parlons ce soir avec Richard Kirimba. Il est premier vice-président de la société civile dans le territoire de Beni. Richard Kirimba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue Lutumbi, député provincial élu de Butembo. Il est également avec nous dans ce débat. Bienvenue Lutumbi, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et il défend ce bois Kianakazi, chercheur à Ebouteli, spécialiste de la question EDF. Il défend ce bois Kianakazi, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Beni au Nord Kivu, vous le souvenez sous la 93.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, au Nord Kivu, deux attaques terroristes ont endeuillé les populations de Lubero et Beni lundi et mardi. Ces attaques attribuées aux rebelles EDF se sont déroulées dans la localité d'Entoyo et dans la zone agricole de Fotoudou. Au total, près de 90 personnes ont perdu la vie et plusieurs sont portées disparues. Enoch Katumbi nous en dit plus.
D'abord, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre, la localité d'Entoyo, à 7 km des Mangourejipa, dans les territoires des Lubero, a été la cible d'une attaque alors que les habitants participaient à une veillée mortuaire. Les assaillants ont tué à l'arme blanche et par balle. Bilan provisoire, 71 morts, 8 blessés, 14 maisons détruites, plusieurs véhicules et motos incendiés, ainsi qu'une vingtaine de disparus. Les forces conjointes FRDC et UPDF sont intervenues depuis Mangourejipa, mais le rebelle avait déjà pris la fuite vers la forêt. Le lendemain, mardi 9 septembre, c'est la zone agricole des Fatoudou, à une dizaine de kilomètres d'Oicha, dans les territoires des Beni, qui a été attaquée. Des blocs agricoles ont été pris pour cible, notamment ceux des Fatoudou, Maleki et Avei. Bilan provisoire, 18 civils tués, dont 15 hommes et 3 femmes, ainsi que 7 motos et 7 vélos incendiés. Là encore, l'armée est arrivée après le retrait des assaillants et les activités agricoles sont aujourd'hui paralysées. Au total, près de 90 personnes ont perdu la vie dans ces deux attaques, selon les bilans croisés des autorités et de la société civile. Les FRDC et leurs partenaires ougandais affirment avoir lancé des opérations de ratissage, tandis que les autorités appellent la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité.
Merci Enoch Katumbi. Richard Kirimba, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la société civile dans le territoire des Beni. On va commencer d'abord par le bilan. On a plusieurs chiffres, hein, 90 personnes tuées lors des deux attaques, 89 selon le gouvernement congolais. Vous qui êtes sur place, en plus vous êtes de la société civile, est-ce qu'on connaît finalement les nombres de personnes qui ont été tuées lors de ces deux attaques menées par les EDF en deux jours dans le territoire de Lubero et Beni?
Oui, exactement, madame. Il y a exactement 18 personnes qui ont été tuées à Cotonou. Il y a aussi 71 personnes dans le secteur de Bapéré, dans le territoire de Lubero. Donc, ce qui fait exactement 89 personnes qui sont mortes comme ça simultanément en territoire de Lubero et au territoire de Beni. Il s'agit de morts horribles, de morts atroces. S'il y avait des morts dignes, c'est pas le cas pour ce qui se passe en territoire de Lubero et en territoire de Beni.
Mais comment on peut expliquer cette énième tuerie des civils par les EDF alors qu'il y a des opérations conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise dans cette partie du pays?
Oui, il faut d'abord dire que ce qui s'est passé, c'est la suite d'une série de tueries massives qui s'est accentuée depuis juillet dernier. Nous pouvons dire d'ailleurs que depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui ont perdu leur vie. Et ça s'explique par beaucoup de facteurs, évidemment. Par exemple, les renseignements. Donc, au niveau du renseignement militaire, bien qu'il y a des opérations conjointes UPDF-FADC, mais il faut aussi ajouter la surmilitarisation des troupes des Nations Unies qui signalaient aussi dans la zone. Malgré tout ça, il y a des soucis des renseignements. Donc, les capacités des FARDC et de leurs partenaires par rapport à dissuader et même intervenir, ces capacités sont vraiment...
On a du mal à vous suivre, monsieur Kérimba. Richard Kérimba, on a du mal à vous suivre. Essayez de bouger pour améliorer. Richard Kérimba. Richard Kérimba, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Richard Kérimba, est-ce que vous me suivez? Je crois qu'on a un souci avec votre ligne. La réalisation va essayer de vous rappeler parce que là, on ne se comprend pas, hein, vous et moi. Donc, la réalisation, comme je disais, va vous rappeler pour voir dans quelle mesure on pourrait améliorer la qualité de la ligne. Bienvenue, Lutumbi. Vous êtes député provincial élu de Butembo en tant que représentant de la population locale. Comment vous expliquez cette vague des massacres dans cette partie de la RDC?
Merci madame, je pense qu'il faut d'abord dire que la population a beaucoup souffert dans ces affres parce que les massacres trop durés. On est aujourd'hui, si vous évaluez le temps, à plusieurs années, si vous comptez à partir de 2013, que les tueries sont en train de se perpétrer. Mais aujourd'hui, il faut préciser que ces tueries ont un peu migré parce qu'elles étaient beaucoup plus perpétrées dans les versants du parc national de Virunga, du côté du Rift Valley, communément appelé les Grabels, la partie de Mayankos et ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est plus le côté ouest avec les territoires de Lubero qui prend une ampleur inquiétante, où se sont aujourd'hui concentrées les opérations conjointes FADC-UPDF qui sont en cours. À notre niveau, comme élu provincial, nous situons tout ce qui est en train de se passer à plusieurs niveaux. Le premier niveau étant celui de cette double opération à laquelle notre armée est confrontée. Nous sommes conscients et savons que l'armée a un morceau dur avec ces opérations qu'elle doit mener du côté du territoire de Lubero sur le front contre l'M23, mais aussi ce qui doit se passer de ce côté du territoire de Lubero et de Beni pour combattre la DFMTN. Vous allez noter, madame, que depuis un moment, nous avons décrié, en tant que représentants de la population, ces dégarnissements des positions militaires du côté de Ouissa et dans d'autres entités, même le secteur de Bapéré dans le Lubero qui ont été touchés. Il y a nos militaires qui ont été relevés de leur position à pour renforcer les lignes de l'autre côté de Lubero pour préserver l'avancée, la progression de la rébellion du M23. Et c'est le premier aspect à notre niveau, qui soit à la base de ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Nous continuons à estimer en tant que représentants de la population que l'ennemi est en train aujourd'hui de profiter de ce vide que nous avons créé, que le gouvernement a créé en train de déployer ces militaires qui veillaient à la sécurité de populations agricultrices dans ces zones. Le deuxième aspect, on doit aussi noter, madame, c'est que aussi, dans l'organisation militaire, nous l'avons même plusieurs fois évoqué au commandement dans la zone, les éléments de sécurité se sont beaucoup plus concentrés dans des grandes agglomérations, abandonnant ainsi les périphéries. Et lorsque vous, par exemple, vous effectuez des descentes sur cette zone qui a été touchée, nous sommes à Mangourégie, par approximativement 5 km de la ville de Boutembo, vous trouverez des camps dans des grandes agglomérations, c'est vrai. Il y a des militaires qui sont aussi dans la poursuite de l'ennemi dans les fins fonds, mais les autres agglomérations, les localités environnantes ne sont pas sécurisées. Il n'y a aucune sécurité là-bas. Et dans les quelques agglomérations où il y avait des résistants VDP, il y a eu des difficultés pour certains commandants dans ces secteurs qui n'ont pas autorisé à ce que ces jeunes soient actifs et qu'ils contribuent à la sécurisation de la population. Et donc, c'est deuxième degré aussi à donner un libre champ à l'ennemi d'opérer, parce que dans ces zones où on pouvait trouver, par exemple, les résistants qui ont été expulsés sur ordre du commandement qui est venu s'installer dans ces agglomérations, il y a un vide qui a profité à l'ennemi et qui puisse refaire ces passages qui occasionne tout ce qui est en train de se provoquer aujourd'hui. Le troisième et dernier degré auquel nous estimons rattacher toute cette tuerie, ce sont les combats que nous devons admettre que l'armée est en train de déployer dans l'intérieur même du côté de Mambasa, mais aussi dans les fins fonds, dans la brousse du territoire de Lubero pour ce qui est de la partie après Bandoulou et d'autres zones. Vous êtes à plus ou moins une quarantaine de kilomètres après Mangourégie, et donc à ce niveau, l'ennemi essaye parce que l'armée, dans ses opérations avec l'Ouganda, l'UPDF, est en train de résister et de poursuivre l'ennemi et de lui imposer des terribles conséquences à terme de pertes humaines et autres. Et l'ennemi, pour essayer de bloquer l'avancée des forces conjointes, essaie de venir tuer en l'intérieur pour demander et imposer aux services de sécurité de reculer et lui permettre de vivre un peu librement dans les fins fonds où l'ennemi est menacé. Voilà autant d'aspects qui ont poussé aujourd'hui à ce que nous sommes en train d'assister, et ce que nous condamnons effectivement, et demandons une fois de plus que les efforts soient une fois de plus mise en commun pour que nous puissions maîtriser la situation.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre par là, monsieur le député, bienvenue, le Tchoumbi, que les EDF opèrent dans les zones où les opérations conjointes FRDC et UPDF ne se déroulent pas?
Il y a des bilans que nous ne pouvons pas contester, madame, que les forces conjointes FRDC et UPDF sont en train d'imposer à l'ennemi aujourd'hui des pertes énormes que nous sommes en train de témoigner. Nous avons été sur les lignes dans une délégation avec le gouverneur militaire de la province en train d'accompagner les forces après l'attaque qu'a subi Oisha. Nous avons témoigné les résultats des retombées des diverses opérations militaires. Il y a cet aspect que nous devons quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont fournis à ce niveau-là. Mais attention, ce qui doit encore aujourd'hui attirer l'attention, c'est que maintenant que l'armée et les services savent que l'ennemi, avec les services, recule en venant attaquer la paisible population qui n'est pas armée, pour demander à l'armée de reculer, on doit monter des stratégies pour limiter. Et au même moment, ces représailles de l'ennemi dans les grandes agglomérations en train de poursuivre les opérations qui se poursuivent dans la brousse, madame.
Merci. Vous êtes très, très nombreux, auditrices, auditeurs, internautes de Radio Capi, à suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Gloire Bagaya dit ceci, nous sommes fatigués de tous ces massacres du Nord qui vous, chaque fois, nous sommes en train de dénoncer, mais les gouvernements congolais semblent ne pas prendre ses responsabilités. Merci à Jean Goma qui nous suit depuis la ville de Goma. Raphaël Chibassou estime que c'est regrettable ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Patrick Mbouli Kitanga, pour lui, il n'y a plus de mots pour qualifier ce qui se passe à Beni aujourd'hui dans les massacres des civils. Richard Kirimba, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis là, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la société civile du territoire, dans le territoire de Beni. Vous étiez en train de nous expliquer, selon vous, pourquoi cette vague des tueries hein, des civils dans cette partie du pays.
Oui, évidemment. J'ai parlé d'abord de l'aspect renseignement. Donc, sur le plan renseignement, vous sentez qu'il y a des soucis parce qu'on ne sait pas prévenir les incidents, on ne sait pas anticiper. Alors que les informations sont déjà disponibles au niveau des autorités, des services de sécurité, mais on arrive toujours à observer à des situations horribles comme ce qui s'est passé à Mangourjipa et à Oicha. Oicha a été triplement attaqué, mais non loin de Oicha, il y a aussi des villages comme Maimoya qui ont été doublement attaqués alors que les informations étaient disponibles.
Alors, vous dénoncez le manque de prise en compte.
C'est pour ça que j'ai interrogé par rapport.
Alors, Richard Kirimba.
Oui, là, je parle du manque de prise en compte des alertes ou prise en charge des alertes de la population.
Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez nous donner qui vous poussent à dire que les alertes sont ignorées, les alertes de la population sont ignorées?
L'exemple de Fotodou, où on a personne, c'est un exemple frappant. Parce que déjà, ça fait 3 semaines qu'il y a des mouvements ADEF, et dans ces mouvements-là, il y a des tueries. Donc ça a commencé à Maimoya, à Ndombi, et à Oicha. Et quand on voit cette partie ouest de la commune d'Oicha, la population était entrée, n'est-ce pas, chaque jour, d'indiquer qu'il y a présence de rebelles du côté Maliki, derrière Mamo, de Béoumaniama, n'est-ce pas, parce qu'à partir déjà du 9 au 11 juillet, les rebelles sont entrés de se mouvoir dans toute cette partie. Et à chaque cas, les informations sont données aux autorités. Nous savons bien que ce que l'honorable disait tout de suite là par rapport au souci ou à l'intention de l'ennemi de tirer, donc retirer l'effort de la première ligne à profondeur pour venir les ramener dans les agglomérations, on est bien conscient de ça. Mais qu'est-ce qui est fait? Nous avons l'impression comme si on laissait à l'armée ougandaise, n'est-ce pas, la tâche de traquer les rebelles à profondeur, et pendant ce temps, les agglomérations comme Oicha, comme Mangourjipa, comme Mangina, comme Maimoya, ne sont pas protégées. Donc, nous ne sommes pas des militaires, mais ce qui se ferait, c'est que pendant qu'il y a une force à profondeur de la forêt pour traquer les rebelles, on devrait prendre des précautions pour protéger les agglomérations comme Oicha, qui accueille d'ailleurs plusieurs déplacés, des agglomérations comme Eringeti, Maimoya, Béoumaniama, même la ville de Beni, la commune de Mangina. Ce sont là des agglomérations qui sont vulnérables. Et malheureusement, voilà aussi des grandes agglomérations de Lubero qui viennent aussi d'être touchées. Alors, c'est pour ça que nous disons qu'il y avait lieu d'anticiper, de prévenir et d'éviter même tout ce qui se passe actuellement.
Alors, Richard Kirimbasi, vous avez activé le mode main libre. Merci de le désactiver pour que nous puissions améliorer la qualité de la ligne. Alors, il y a des opérations conjointes FRDC et UPDF qui sont en cours. Selon vous, Richard Kirimba, pensez-vous qu'elles sont efficaces ou vous estimez qu'il y a des lacunes dans la stratégie militaire?
En tout cas, à mon avis, il y a des lacunes dans la stratégie militaire, surtout dans la coordination des opérations Soudia. Parce que si vous voyez du côté de Beni, on sent que ça semble être organisé, coordonné. Mais du côté de Lubero, dans le Mangourji, par là-bas, on dirait comme si les opérations étaient encore au niveau de la mise à place aux études préliminaires, c'est pas encore très visible. Mais ce que j'ai dénoncé, c'est que, par exemple, ici à territoire de Beni, donc les éléments des opérations Soudja sont déployés à profondeur, comme à Béou, ils sont allés jusqu'à Mongamba, dans le territoire du Rumu. Mais vous voyez que les espaces qui étaient considérés conquis sont vides et profitent au mouvement d'EF qui sont en train maintenant de se balader comme ils veulent et tuer les populations en masse. Et vous comprenez qu'actuellement, on nous signale que ils ne sont même pas nombreux des éléments ADF qui sont en train de commettre des exactions dans les grandes agglomérations, que ce sont des petits groupes qui se sont retirés de la grande ligne de front pour venir endeuiller la population ici. Oui, mais là, on se pose la question de qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait pour prévenir cela?
On vous garde encore dans cette émission. Richard Kirimba, il défense Bouakianakazi. Vous êtes chercheur à Ebouteli, spécialiste de la question des EDF. Alors, les opérations conjointes FARDC et UPDF sont en cours, comme je venais de le dire. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour neutraliser un groupe comme les EDF, il défense Bouakianakazi?
Alors, madame, pour nous, ce que je voulais dire, c'est que l'opération Soudja a été lancée. Elle présente beaucoup de limites. Nous avons relevé depuis le début, et dans les différentes émissions, dans les différents rapports que nous faisons, nous essayons de revenir sur la manière dont...
Il défense, s'il vous plaît, si vous avez... Activez main libre. Merci de le désactiver ce mode. Hein.
Allez.
Allez-y, on vous écoute.
Allez. Ok. En fait, je disais ceci. Je disais que l'opération Soudja présente vraiment beaucoup de limites. Et nous avons fait beaucoup des observations, beaucoup des analyses sur ça. Et nous avons d'ailleurs même proposé des pistes pour voir comment renforcer ces opérations pour qu'il y ait un résultat positif de ces opérations. Alors, ici, si je reviens d'abord sur cette résurgence de massacres, c'est que c'est une suite de massacres qui ont commencé juste après le bombardement de la position EDF à la limite entre le territoire du Rumu et celui de Mambasa, notamment sur la colline de Maesi, où nous avions fustigé le fait que les FRDC et les UPDF avaient ciblé cette position, mais il n'y avait pas eu d'opération de ratissage sur terrain, ce qui fait que les EDF se sont éparpillés dans les villages et ils ont été libres de commettre des massacres contre la population dans le cadre de revanches ou de vengeances contre ces bombardements de leur position à Maïs. Et là, on a vu déjà la faiblesse parce que les EDF passaient dans les filets des FRDC et des UPDF et ils pouvaient opérer dans les différents villages sans vraiment avoir beaucoup de contraintes de la part des FARDC qui seraient là pour limiter les dégâts des EDF. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans les 24 heures passées, on a enregistré les incidents d'Entoyo où aujourd'hui, Jeff essayait de faire la triangulation du bilan. Aujourd'hui, on parle de 72 personnes, donc on a ajouté une autre victime sur le bilan. Par exemple, pour cet incident, Ntoyo se trouve à près de 7 kilomètres de Mangourji Plasante. Et dans ce petit village, il y a déjà une petite position des FRDC qui est là. Mais les FRDC, lors des opérations, les FRDC, lors du massacre de ces populations-là, les FRDC ne sont pas intervenus. En même temps, les UPDF qui sont à Mangourji Plasante, n'ont pas si se mobiliser jusqu'en Toyo pour dissuader les ZDF de ne pas commettre beaucoup de sida contre la population civile. Alors on se pose la question, est-ce que réellement l'opération Souja est encore en vigueur? Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on essaie de suivre les événements dans les villages où il y a eu des massacres, on se rend compte que vraiment il y a une sorte d'inaction de nos services de sécurité, notamment les FARDC et leurs alliés les UPDF. Parce que vous avez parlé de la question, le président a parlé de la question des alertes. Même pour la question pour le sida de Ntoyo, il y a eu des alertes qui sont passées 2 jours, 3 jours avant, où les populations, les agriculteurs ont alerté les services pour dire que nous sommes en train de voir des personnes suspectes dans des champs. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de dispositions prises. Et aujourd'hui, on vient enregistrer un bilan très lourd. 72 personnes, c'est un bilan vraiment très lourd. Ah. Malheureusement, donc, depuis qu'on continue malgré les alertes qu'on donne, il y a toujours des incidents qui s'ensuivent et les autorités ne prennent pas de mesures, même des sanctions. Par exemple, les officiers des FARDC ou des UPDF qui sont sur cette ressort-là, pourquoi ne peuvent pas être interpellés et pourtant ils ont eu des informations avant que les incidents se commettent? Donc, moi je pense que les FARDC ou les UPDF pourraient capitaliser les informations qu'ils reçoivent de la population et cela permettrait réellement de limiter les dégâts que les ZDF sont en train de commettre contre la population. Mais aussi longtemps qu'on va laisser qu'il y ait des incidents près des positions des FARDC, près des positions des UPDF et qu'il n'y a pas de sanctions, moi je me dis alors à ce moment-là, cette opération Souja ne pourra pas aboutir vraiment à un résultat escompté et malheureusement nous continuerons à enregistrer des bilans énormes comme ça contre la population civile. Mais alors, ce que nous voulons, c'est que cette opération soit réellement proactive, les éléments FARDC et les éléments UPDF soient réellement proactifs. On sait certainement que on ne pourrait pas avoir des éléments dans tous les villages. Nous avons beaucoup de villages à territoire de Lubero, beaucoup de villages à territoire de Beni, à Irum, à Mambasa. Ça ne sera pas possible qu'on puisse mettre les militaires partout. Mais seulement ce que nous demandons, c'est la proactivité des FARDC, la proactivité des UPDF. D'Entoyo à Mangroji passe 7 kilomètres. La route est plus ou moins accessible. Donc ça veut dire, si réellement il y avait à la première lettre donnée au UPDF ou au FARDC, normalement dans moins de 30 minutes, le UPDF serait déjà à Ntoyo. Et à ce moment-là, peut-être, on pouvait limiter les dégâts qui ont été commis contre la population civile. Mais là, j'ai suivi par exemple votre reporter qui a dit, non, il y a eu intervention des FARDC et des UPDF, mais qui sont arrivés après que les assaillants puissent partir. Mais quel genre d'intervention à ce moment-là, nous pouvons parler pour ces cas-là?
Alors, Ildefonse Bakanakiazi, est-ce qu'on peut parler d'un manque de coordination entre l'armée et les renseignements civils?
Alors, moi, je pense que je ne sais pas trop comment ça se passe réellement au sein de FARDC ou de UPDF, parce que moi, je sais que dans la question de sécurité, l'information, c'est une darée importante, parce que toutes les opérations se font sur base des informations reçues. Mais dans la manière dont les opérations Souja sont conduites sur terrain, on se rend compte qu'on se méfie réellement des informations de terrain. Et moi, je me pose la question, où est-ce que les troupes impliquées dans les opérations Souja trouvent leurs informations pour chercher à intervenir, pour essayer de sauver les vies humaines? Parce que les informations qui sont données, la plupart des cas, la population, les leaders communautaires envoient des alertes avant, mais on ne voit rien. C'est que on ne voit pas vraiment l'implication proactive des militaires impliqués pour essayer de dissuader ou prendre des dispositions pour que les ZDF ne puissent pas commettre des incidents contre les civils. Et donc, certainement, il y a cette inadéquation entre les militaires qui sont censés prendre les informations données par la population, les transformer à une sorte d'input pour qu'il puisse avoir, il puisse planifier des opérations. Donc, il se méfie de ces informations-là. Et c'est comme ça qu'il y a ce genre de sida qu'on enregistre le plus souvent dans les zones. Et malheureusement, il y a des victimes civiles qui tombent chaque jour.
Alors, la prolifération des groupes armés dans la région ne rend-elle pas la situation un peu plus complexe? Il y a un auditeur qui nous suit depuis Goma, au Nord Kivu, qui demande s'il y a une coordination entre EDF et d'autres milices dans la région.
Alors, oui, on sait que dans la zone, il y a certainement tellement le phénomène Wazalendo où ils sont presque partout. Mais là aussi, il s'avère qu'on ne voit pas aussi parfois l'impact de ce Wazalendo parce qu'il y a dans le passé des incidents qui se sont passés dans une zone où il y a une position de Wazalendo. Et d'ailleurs, à guise d'information, pour les incidents, par exemple, d'Entoyo, dans ce village, il y a une petite unité de Wazalendo qui semble-t-il est intervenu vers les dernières minutes de l'opération et qui semblerait que dans ce groupe-là, il y a une victime de ces combattants Wazalendo qui sont dans cette position-là. Certainement, on sait que nous sommes dans un système de sécurité qui est dans une sorte de désorganisation actuellement, où tout le monde se présente comme un acteur armé, il y a des forces loyalistes qui sont dans la zone, il y a aussi les Wazalendo qui, parfois, ils n'ont pas de coordination réelle, où on ne sait pas réellement quels sont les objectifs lorsqu'ils se positionnent dans tel village ou dans tel autre. Et malheureusement, à dépit de toute cette complexité des hommes armés dans la zone, mais les EDF continuent quand même à passer dans les mailles et à commettre des incidents contre les civils. Donc, on se dit, même s'il y a un nombre important de d'acteurs armés dans la zone, mais les terroristes EDF continuent toujours à commettre les incidents à la présence de tous ceux qui sont là, dans cette zone-là. Et moi, je me dis, à un moment donné, on peut même se poser la question, toute cette constellation d'acteurs armés, ça sert vraiment à quoi dans cette zone-là où on continue depuis plus de 4 ans à enregistrer des incidents contre les civils?
Merci Delphonse Bouakianakazi. Blanchard Mouira, vous nous suivez depuis Butembo. Vous pensez, pour vous, la situation présentée par l'honorable Lutumbi est vraie? Pascal Pochombili, vous nous suivez depuis Beni. Vous fustigez les comportements des dirigeants qui ne frôlent même plus la complicité, mais qu'il est, voilà, c'est ce que vous écrivez. Vous vous demandez comment expliquer cette passivité qui ne fait que endeuiller chaque jour la population de Beni, voilà. Diem Mouroula, vous posez la question de savoir quelle est la vraie revendication des EDF. Nos invités vont essayer de répondre à cette question, mais avant cela, on va prendre d'abord ces auditeurs qui sont en ligne. On va aller à Beni, justement, on va rester à Beni pour écouter cet auditeur.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, je pense que le régime en place doit avoir le courage politique de reconnaître son échec, parce qu'on s'interroge sur le pourquoi du maintien des opérations conjointes FRDC et UPDF, parce que ces opérations n'ont produit aucun résultat tangible. Et l'ADF continue de tuer à Beni, au Ouitcha et partout ailleurs, toujours avec la même facilité comme avant les lancements de ces opérations. Ce qui est pire encore, les alertes de la société civile ne sont jamais prises en compte. À chaque fois que la population alerte, les services de sécurité interviennent rarement. Alors, on s'interroge si à quoi servent ces opérations si nos populations continuent à tomber comme des mouches. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenir un état de siège qui n'a apporté que des et désolation? Visiblement, le régime a transformé le Nord Kivu et l'Ituri en cimetière à ciel ouvert. Et pendant que les familles creusent les tombes, Kinshasa se contente de discours créés et des promesses sans lendemain. Non. Et si le gouvernement n'a ni la volonté ni la capacité de protéger son peuple, qu'il ait au moins la décence de tirer les conséquences de son échec et de céder la place à ceux qui en ont le courage et la vision.
Alors ça c'est un habitant de Beni qui est en train de s'exprimer. Honorable Lutumbi, brève réaction, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que l'auditeur, il a finalement raison, parce que c'est tout ce que toute la communauté continue à fustiger. Il y a ce qui incombe à responsabilité notre gouvernement, il devait nous aider, parce que ça fait trop longtemps, comme je l'ai dit en amont, on a trop duré dans ces carnages que la population est aujourd'hui est peu fatiguée. Vous comprendrez que le gouvernement nous aidait, nous l'attendons à trois niveaux différents, les niveaux de moyens matériels. Madame, vous allez comprendre, les militaires qui sont déployés sur terrain, ils n'ont même pas le matériel suffisant pour faire cette guerre. Les localités que nous sommes en train de visiter aujourd'hui, ce sont des localités nombreuses. On ne peut pas demander à ces effectifs insignifiants de contrôler, de surveiller toutes ces entités. Et donc, on doit avoir recours à des matériels comme des drones. Ils n'ont pas de moyens de déplacement pour intervenir. Il y a des difficultés au niveau de moyens financiers comme matériels, et le gouvernement devait être actif à ces niveaux pour nous prouver qu'il est vraiment en train de partager la douleur de la population nord-kivu. Mais aussi, le deuxième aspect, c'est le renforcement de ces programmes de formation de la défense locale. On doit comprendre aujourd'hui qu'on n'a pas une armée aujourd'hui qui puisse être à la hauteur de surveiller et de contrôler, sécuriser toutes les agglomérations et toute la population. Quand on vous parle, madame, aujourd'hui du territoire de Lubero, vous êtes autour de milliers de localités et on ne saurait même pas les protéger. Et donc, on doit aussi activer cette autre alternative qui consisterait à outiller, à former sur ces besoins des jeunes qui sont prêts à le faire, afin d'en avoir quelques-uns dans chaque localité qui ont du matériel, de fusil peut-être, pour ne fût-ce que pour protéger, alerter, et qui seront en communication avec les services de sécurité, et ces services de sécurité dotés de moyens qui interviendront à temps, on pourrait faire face à cette difficulté. Le troisième et dernier degré ici, le gouvernement que nous voulons voir s'impliquer dans notre problème pour nous rassurer qu'il est avec nous, c'est le voir aussi entrevoir des actions sociales. Il y a aujourd'hui des localités qui sont vidées de leur population. Et ce mouvement ADEF ici, il s'agit des groupes terroristes. Et quand on parle de groupes terroristes, avec toutes ces localités qui n'ont plus d'habitants, vous comprenez que c'est comme une force pour l'ennemi. Lorsque des dizaines ou des milliers de localités sont en train aujourd'hui de se vider, et la population est en train de se transformer à une communauté de déplacés dans des grandes agglomérations. Et donc, tout ça parce que la population n'a plus de maisons. Ces ennemis, ils incendient des maisons à leur passage. C'est difficile, madame, de voir notre gouvernement venir reconstruire les maisons incendiées. C'est difficile de venir reconstruire, doter de matériel nécessaire aux structures sanitaires qui ont été incendiées. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de voir notre gouvernement remettre dans l'air droit ou ressusciter toutes ces activités économiques, les opérateurs économiques qui sont en train de perdre leurs engins roulants, des engins de voitures et de véhicules. Ce sont toutes ces situations qui profitent à l'ennemi. Parce que lorsqu'on abandonne les entités, effectivement, cette terreur s'installe dans le cœur des autres populations. Et finalement, il y a des villages qui se vident sous cette pression de la terreur, alors que l'ennemi est encore très loin. Nous estimons qu'à ce niveau, à ces trois points, le gouvernement nous aura manifesté qu'il est vraiment avec nous et il est soucieux de restaurer la quiétude, la sécurité dans toutes les entités où nous vivons, madame.
Alors, après Béni, on va aller à Bukavu pour écouter cet autre auditeur qui est déjà en ligne.
Héritier Zainda, je vous appelle dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais d'imposer l'autorité de l'État dans cette partie de la République où les gens meurent comme les cobayes, surtout les enfants et les femmes? Est-ce que l'État congolais peut expliquer au peuple congolais la cause principale de ces massacres? S'il y a une revendication de ces miliciens, pourquoi ne pas répondre favorablement à ça pour sauver des vies? Donc la sacralité de la personne humaine à l'est de la RDC n'a plus d'importance. En tout cas, avec ce genre de massacre et moyennant le nombre de morts, je ne vois pas l'importance d'une force conjointe, car elle a pour mission de mettre fin à cette situation décevante et terrible. Mais malheureusement, cette force conjointe ne parvient pas à réussir.
Richard Kirimba, quelques commentaires. Hein. D'abord, il y a ces auditeurs qui se demandent si c'est quoi la vraie revendication de ces EDF. Est-ce qu'on la connaît?
Oui, madame. En fait, c'est difficile de répondre à la question de revendication des ADF, parce qu'au départ, c'était une rébellion des revendications ougandaises, mais qui, progressivement, ça a pris une ampleur terrible, au point où est-ce que c'est l'islamisation de la zone, est-ce que c'est l'endoctrinement de l'islamisme, si on peut dire comme ça ou comment. Mais ce qui est vrai, que c'est une situation complexe, et les auditeurs qui s'interrogent par rapport à la volonté du gouvernement ou les actions du gouvernement, ils ont pleinement raison, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que misait quand même la question des ADF. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, il y a un commandant des opérations, Sokola 1 Grand Nord, mais à la fois commandant Front Nord d'M23. Mais vous allez comprendre que le front, ici, des ADF, c'est le front secondaire. Donc, jusque-là, le front contre l'M23, comme le considéré comme le front principal, c'est vraiment le front.
Richard Kihimba, on ne vous suit pas du tout. Allô?
Oui, allô?
Oui.
Je suis en ligne.
Oui, vous êtes en ligne, on ne vous a pas suivi. Hein.
Oui,
vous étiez en train de parler.
J'ai déploré le fait que le front ADF est considéré comme un front secondaire et que celui contre le 23, c'est le front principal. Ça, c'est une preuve de montrer que le gouvernement continue à minimiser la guerre des ADF par rapport à cette guerre de M23. Et vous savez, l'honorable Vitumbi nous a parlé tout à l'heure des effectifs ou des problèmes liés à la prise en charge des FARDC. À un moment donné, on pensait la même chose, mais on a compris que c'est pas forcément ça la situation. Vous savez que lorsque Goma a été pris par l'M23, on a déclaré ici pour renforcer le front contre l'M23. Donc, toute cette zone du territoire de Beni était presque restée vide. Mais pendant 6 mois, il n'y avait même pas d'attaque contre les civils. Il y avait diminution des cas d'incursion. Et ce qui nous a montré que c'était pas forcément le nombre de militaires qui devraient protéger cette population de Libero de Beni ou dans la zone ADF.
Jackson Kisangani, depuis Kinshasa, tant que les forces en place vont se contenter de réagir après coup, sans stratégie claire de protection des populations, les massacres vont continuer. La question demeure, qui protège réellement les civils de Beni et de Lubero? On va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne et qui nous appelle depuis Kananga, au Kasaï central.
Bernard Malumba, depuis la province de Kasaï central. Dans cette situation, nous constatons la défaillance dans les réponses aux alertes. Donc, les alertes de la population ou des leaders locaux sur la présence des ADF sont souvent ignorées ou traitées avec lenteur, laissant le temps aux rebelles d'agir. Manque de coordination réelle. Bien que les opérations soient conjointes, la coordination stratégique, le partage des informations et la mobilité rapide semblent insuffisants ou mal structurés. Connaissance du terrain par les ADF. Les rebelles profitent de leur maîtrise des zones forestières, de leur mobilité et de leur capacité à se disperser pour échapper aux forces régulières. Faible présence militaire dans les zones reculées. L'armée reste concentrée autour des grandes agglomérations, laissant des localités rurales exposées. Possible complicité ou infiltration. Des soupçons récurrents existant sur les complicités internes ou des infiltrations dans les structures locales de sécurité.
Alors, il défense Bois Kianakazi, cet auditeur, essaie d'expliquer à sa manière cette situation, hein, où ces massacres à répétition à Lubero et à Beni, très brièvement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, madame, moi, je comprends un peu la frustration de nos compatriotes par rapport à cette situation, parce que ça a trop duré. Et en même temps, Comme il est dit, il y a des informations qui sont données, que la population donne, mais dont les responsables militaires ne prennent pas au sérieux pour protéger la population civile. Et cela réellement pourrait faire fatiguer ou frustrer la population qui voit tout ce qui se passe dans cette zone. Et ici, en revenant même sur la manière dont les opérations se déroulent sur le terrain, c'est comme si on n'est plus vraiment dans une zone d'intervention ou dans une zone opérationnelle. Ou réellement, comme il a dit, on voit maintenant que les FRDC et les UPDF sont plutôt dans une position défensive. Et pourtant, nous sommes dans une opération, dans une zone opérationnelle, nous sommes à pleine opération. C'est normalement aux forces conjointes d'aller chercher les EDF là où ils sont. Mais on se rend compte que aujourd'hui, les UPDF et les FRDC attendent plutôt qu'on dise non, on a tiré telle part pour qu'on puisse se déployer dans cette zone-là. Et lorsqu'il y a quelquefois des opérations offensives, ce sont des bombardements dans certaines positions identifiées pour les EDF, mais sans opération de ratissage sur terrain. Donc cela donne une certaine inadéquation sur l'objectif réellement de ce qu'on veut, on veut avoir, bien l'objectif qu'on est en train de poursuivre pour la conduite de ces opérations.
Alors, il défend...
J'avais dit la fois passée, toujours dans la même émission, en dialogue intercongolais, que lorsque les opérations ont commencé, on a vu par exemple les dispositifs mis en œuvre, par exemple à Mwalika, dans les Graben, où on a senti vraiment, il y a eu l'intervention des hélicoptères de guerre, mais en même temps, sur le sol, il y avait des militaires. Aujourd'hui, la zone Mwalika, la zone du Graben est sécurisée. La population de cette zone essaie de respirer une calme de paix depuis un bon moment, suite certainement à cette opération Souja. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, la population de Rwenzori, qui vit aussi une certaine calme de la paix parce qu'il y a eu l'opération qui s'est réellement effectuée sur le terrain et on a vu les résultats. Mais pourquoi on ne veut pas continuer avec cette approche qui avait réussi?
Alors, pour conclure, Idelfonse, vous pensez ou vous estimez qu'il faut revoir l'approche sécuritaire?
Oui, moi je pense que certainement il faut revoir, mais le problème déjà commence ici, notre politique de défense et de sécurité. Ça, c'est déjà une faiblesse majeure parce que si nous avons une mauvaise politique, nous n'avons pas une bonne politique de défense et de sécurité de notre territoire, de notre population, cela pose des problèmes. On peut multiplier des opérations et des opérations, on peut ne pas aboutir à des résultats escomptés. Et donc, la première chose qu'il faut, il faut d'abord qu'on définisse, qu'on ait une politique cohérente pour notre défense et notre sécurité. Et après cela, s'il y a des opérations qu'on mène sur le terrain, alors qu'on prenne des dispositions pour cet objectif ultime qui est la sécurisation de notre peuple et de notre territoire national. Parce que si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, nous continuerons à appeler, peut-être aujourd'hui on a appelé les Ougandais, peut-être demain sera le Sud-Soudanais, après demain ça sera les Angolais et tout ça, mais le résultat restera, la situation restera la même sur le terrain.
Merci.
Et autre chose,
rapidement.
Avant, au début des opérations Souja, il y avait des sessions d'évaluation de ces opérations. Mais depuis un moment donné, on se rend compte que ces sessions d'évaluation n'existent presque plus. Alors aujourd'hui, on a analysé la situation est analysée, et on ne voit pas de résultats, et personne ne se reproche de cette situation-là. Et donc moi, je pense qu'il est important de réévaluer cette opération, de dire, écoutez, ça fait 4 ans que nous avons lancé une opération militaire, mais quel est le résultat réellement? Où est-ce que nous avons échoué, et où est-ce qu'il faut qu'on puisse relever? Les différentes opinions, les différents leaders, nous les chercheurs, nous donnons des propositions, nous donnons des suggestions pour améliorer ces opérations, pour que peut-être demain ou après-demain qu'on puisse aspirer à une paix dans cette zone-là. Mais malheureusement, on se rend compte que, peu importe ce que les gens disent, il y a toujours une sorte de sourde oreille qui fait que, même s'il y a des propositions, il y a des suggestions constructives, on ne les écoute pas et on continue à enregistrer des pertes à vie humaine dans cette zone-là.
Merci, le défenseur.
Moi, je pense que c'est une grande faiblesse.
Merci
on
beaucoup.
On doit vraiment prendre les choses au sérieux.
Merci, on vous a
comme
suivi. Il défense Boakienakazi, on n'a plus beaucoup de temps. Richard Kirimba, quelles sont vos recommandations, recommandations urgentes pour que l'État congolais protège sa population ou la population dans cette région? Richard Kirimba. Je pense qu'on a perdu Richard Kirimba. Bienvenue Lutumbi, vous êtes en ligne.
Je vous écoute, madame.
Ça c'est bienvenue Lutumbi.
Oui, effectivement, nous avons quelques recommandations.
Oui, allez-y, vos recommandations,
oui,
hein,
oui, madame,
pour conclure.
La recommandation que nous avons, vis-à-vis d'abord des services de sécurité, c'est de demander aux services de sécurité de s'organiser en tenant compte de la stratégie de l'ennemi. Il s'avère aujourd'hui que l'ennemi est pourchassé en profondeur, mais qu'il attaque aussi dans les agglomérations habitées, et donc que l'armée et les collaborateurs puissent organiser en tenant compte de ces stratégies pour protéger la population dans les zones habitées. Deuxièmement, c'est demander aux services de sécurité de relever, au besoin condamner, les officiers responsables dans toutes ces agglomérations où les alertes ont été formulées, mais sans suite. Au gouvernement, nous lui demandons de prendre en compte cette menace et de la considérer comme la menace du M23, qui est le même investissement financier, matériel, humain, tactique qui a été déployé de l'autre côté pour combattre le M23, soit aussi visible de ce côté de Lubero et de Beni, parce que nous avons une même population et qui a le même droit. Et enfin, la population, c'est de lui demander de demeurer vigilante, parce que l'ennemi aujourd'hui s'attaque à la population lors des grands rassemblements. C'était le cas à Komanda où des croisés ont été tués. Aujourd'hui, en Toyo, les gens ont été tués dans le deuil. Et donc, à chaque fois qu'il y a des grands rassemblements, que des mécanismes soient mis en marche pour protéger la population, parce qu'aujourd'hui, il se révèle que l'ennemi vise des grands rassemblements. Et enfin, que la population puisse nous aider à comprendre que l'ennemi ne peut pas atteindre les grandes agglomérations à partir des fins fonds de la brousse sans pas avoir un intermédiaire dans la communauté. Et qu'elle donc, ainsi, à ces quelques brebis galeuses, qu'elle se désolidarise de cette collaboration avec l'ennemi, parce que l'ennemi ne va pas nous aider. L'ennemi est en train de nous mettre dans une situation qui nous endeuille chaque jour.
Merci.
Que la population collabore bien au contraire avec les services de sécurité pour endiguer ce mal, madame la journaliste.
Merci, bienvenue Lutumbi. Richard Kirimba, votre conclusion très rapidement.
Oui, en fait, c'est ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, il faut qu'on passe vraiment à des évaluations sérieuses des opérations Soudja, des opérations conjointes pour tirer des leçons. Il y a aussi besoin de la réorganisation ou la réorientation de la question de la réserve de la défense, de l'armée, donc la RAD. Ça, c'est pour réorganiser les Oazalendo, parce que finalement, il y a beaucoup de groupes de Oazalendo qui ne servent à rien, qui échappent même au contrôle de l'État. Et la logique actuelle, c'est que les éléments formés des RAD devraient être placés dans des agglomérations pour finalement alerter et être proactifs. J'imagine aussi que c'est important de scinder les opérations, placer un commandant qui est là essentiellement pour combattre les ADF et non mêler ça avec la question de M23, parce que finalement, ça diminue l'efficacité sur terrain.
Merci Richard Kirimba, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Billy Betou et Alain Goy qui était à la mise en onde. Merci également à Jonathan Fanani qui était derrière les caméras. Enoch Katumbi a réalisé cette émission. Présentation et coordination, Kéline Couture, et s'est branché sur Radio Capi.